Et notre invité ce matin dans le 8:30, Jean-Yves Roux, bonjour.
Bonjour.
Sénateur des Alpes de Haute-Provence, membre du groupe RDSE, hein, le Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le sénateur, tout d'abord, première question. On l'a vu hier, hein, le Conseil de défense s'est déroulé. 4 scénarios sont aujourd'hui envisagés face à la crise sanitaire. On parle non plus de couvre-feu aujourd'hui, hein, qu'on soit très clair. On parle de revenir à un confinement, alors soit strict, soit adapté, avec cette volonté de prendre en compte le critère psychologique. C'est ce qu'a déclaré le député des Alpes d'Haute-Provence hier, Christophe Castaner.
Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que ben, déjà, il y avait une crise économique très importante, une crise sociale aussi, parce que c'est quelque chose qui est quand même remarqué sur les territoires nationaux. Mais c'est vrai que psychologiquement, je crois que ça va faire aussi, comme on dit, beaucoup de dégâts, hein, par rapport à l'être humain. Et je pense qu'il faut qu'on se préserve et que la réflexion du président de la République et du gouvernement sur ce troisième confinement, il faut trouver le mieux, le plus juste possible pour pas que ça fasse encore des dégâts humains. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important et qui doit être très difficile. Parce que je pense que qui qu'il soit au gouvernement, je pense que le problème serait très compliqué. Et c'est facile de faire des critiques par rapport à des prises de décision qui sont faites aujourd'hui, mais par rapport à un problème de santé, par rapport à des problèmes que nous connaissons, je veux dire, par rapport malheureusement à ce manque de vaccins, ou peut-être qu'on n'a pas assez anticipé pour essayer de vacciner les gens, je pense qu'il y a un souci à prendre en compte, mais il faut laisser aussi un peu de liberté aux citoyens pour qu'ils puissent continuer à travailler ce qu'ils peuvent. Alors, est-ce que c'est le télétravail? Est-ce que ce sera le confinement comme celui que nous avons connu au mois de mars?
Vous avez un avis, vous, personnellement?
Personnellement, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Moi, personnellement, il faut continuer les gestes barrières. Mais il ne faut pas confiner la totalité comme on a eu au mois de mars. Dernier. Moi, je pense que je suis plus pour un confinement vers le mois de novembre, quitte à confiner le week-end. Voilà, je suis plus favorable à un confinement le week-end, si vous voulez, que la semaine, parce que je pense qu'il faut que les gens continuent à travailler, il faut que les enfants continuent à aller à l'école, bien sûr, en respectant les gestes barrières. Après, si la pandémie, on voit que ça, je veux dire, les taux commencent à remonter par rapport aux hôpitaux qui sont complètement surchargés par rapport à des hospitalisations, je pense qu'il faudra quelque chose de plus dur. Et il faudra repasser, je pense, le confinement du mois de mars. Mais je l'espère pas.
Justement, par rapport au vaccin, vous en parliez il y a quelques instants. Hein, c'est l'un des articles de La Provence aujourd'hui. La Commission européenne se sent blousée, notamment par AstraZeneca, qui annonce qu'en février et en mars, il n'y aura pas autant de vaccins livrés que prévu. On a été floué par les privés.
Moi, je pense que oui. Je pense que on a eu les yeux ouvert et on n'a pas très fait attention. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un problème de vaccination. Hein, on le voit, hein, on a fait le début de campagne, rien que dans le département des Alpes-de-Provence. Beaucoup de citoyens m'alertent en indiquant qu'ils ne peuvent plus contacter, soit prendre rendez-vous sous Doctolib, soit contacter les centres de vaccination. C'est un gros souci parce que le Premier ministre, le ministre de la Santé a annoncé qu'on aurait en principe toute la population qui serait vaccinée d'ici, c'est-à-dire 70 millions de Français d'ici la fin de l'été. Je le vois mal, vraiment, je vois très mal comment on peut vacciner vraiment 66 millions quand on sait un peu le retard qu'on est en train de prendre. Alors le gouvernement se gargarise en disant qu'on a plus d'un million et demi de citoyens qui ont été vaccinés à l'heure actuelle. Ce sont des gens qui sont atteints par une maladie assez importante ou qui sont vraiment en des difficultés. Je pense que là, aujourd'hui, on a un gros problème. J'espère que le gouvernement
va faire... Et qui vient d'où ce problème? Pas que des laboratoires privés.
Mais je pense que la demande, on n'a pas su gérer. Alors, est-ce qu'on a eu suffisamment de doses de vaccination par rapport à ce que le laboratoire privé a réalisé? Ça, j'en suis pas certain. Parce que c'est une concurrence aussi au niveau des laboratoires qui s'est réalisée. Là, je suis content que Sanofi puisse aider aussi, accompagner, je veux dire, le laboratoire
Pfizer-BioNTech.
BioNTech, pour essayer de trouver des solutions plus rapides et qu'on puisse avoir plus de doses. J'espère qu'on y arrivera. On ne suit jamais l'avenir, mais je suis très soucieux, je suis très inquiet par rapport aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que on n'a pas les doses suffisantes, on garde des doses pour essayer de faire le deuxième rappel, entre guillemets, de la première vaccination, oui. Et je suis très inquiet par rapport à ça, par rapport à notre département et au niveau national.
Alors, il y a forcément aussi une incidence au niveau politique de cette crise sanitaire avec les élections départementales et régionales. Elles étaient prévues au mois de mars. Finalement, elles seront reportées pour juin, normalement, toujours. Certains regrettent qu'on ne les tienne pas plus tôt, en tout cas pas à l'échéance prévue. C'est le cas notamment de Marie-Josée Allemand, qui est secrétaire fédérale du PS dans les Hautes-Alpes. Elle estimait qu'aux États-Unis, on avait bien réussi à élire un président en pleine crise sanitaire. Pourquoi en France, on n'arriverait pas à tenir ces échéances ?
Écoutez, c'est simple, parce que les États-Unis, ils font les votes par correspondance. Et ils font des votes électroniques. Nous, nous en sommes pas encore là. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui était prévu au niveau de l'État et par rapport aux annonces au niveau des ministères de la Santé, apparemment, on serait une pique de la pandémie au mois de mars. Et donc, si c'est pour se retrouver dans la même période que les élections municipales, où on s'aperçoit que les élus qui ont été élus uniquement avec 20%, entre guillemets, d'électeurs, je trouve que c'est un peu bafouer la démocratie. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaye de prendre les dispositions. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, le Sénat a proposé de faire les élections du 13 au 20 juin, ce qui permettrait d'avoir un échelonnement. Mais on a aussi apporté des informations, c'est-à-dire avoir une double procuration, ce que le gouvernement ne veut pas, et je le regrette. Parce que ça, c'était quelque chose qui était une avancée, qui était bien, que chaque électeur puisse avoir deux procurations à la place d'une à l'heure actuelle. Et donc, essayer aussi de trouver, d'assouplir aussi l'établissement des procurations et que ce soit un peu les agents des polices municipales ou des gendarmeries ou de la police qui puissent aller à l'encontre des citoyens qui ne peuvent pas se déplacer pour donner leur procuration. Voilà, donc on a pris des précautions quand même sanitaires assez importantes pour que au mois de juin, ça puisse se dérouler dans une réflexion plus rapide et le mieux possible pour que les citoyens puissent voter. Parce qu'au mois de mars, c'était trop juste pour faire un vote, une réflexion pour un vote par correspondance. J'ai fait partie d'une mission d'information là-dessus. On s'aperçoit que le délai, même pour le mois de juin, ça sera impossible. Ça sera pour des élections prochaines.
Donc il n'y aura pas de vote par correspondance ou de vote électronique pour le mois de juin ?
Non, c'est impossible. C'est impossible de le mettre en place par rapport à toutes les auditions que nous avons réalisées par rapport à cette mission. On s'est aperçu que c'était pas possible parce qu'il y a un délai d'appel d'offres au niveau pour la distribution des prix. Il faut que ça soit sécurisé dans un endroit qui soit très sécurisé pour garder les enveloppes et en fait le vote par correspondance. Donc il y a une réflexion qui est quand même très très importante et c'est pas si facile que ce qu'on peut penser.
Mais en tout cas, cette crise sanitaire, elle est en train aussi de faire en sorte qu'on revoie les élections et peut-être qu'on les modernise un petit peu en France.
Oui, moi je pense qu'il faut qu'on les modernise. Et je suis pour le vote électronique. Moi. Je vous le dis clairement, je pense que c'est le vote électronique. Aujourd'hui, si chaque citoyen a une adresse IP dans son portable et qu'il puisse recevoir un code et pour dire, voilà, on va voter, je pense que ça fera voter déjà plus de jeunes. Ou alors étendre, je veux dire, à la place du dimanche, l'ouvrir le samedi, le dimanche, le lundi, trois jours pour faire des bureaux de vote qui soient pas que sur une journée, mais qui soient sur tout le jour. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'on sait que c'est beaucoup de personnel communal et aussi des élus qui tiennent les bureaux de vote, et ça a un coût financier, et ça, je pense que c'est une réflexion. Mais le vote électronique, c'est quelque chose qui pourrait améliorer, je veux dire, la démocratie, et où chaque citoyen pourrait voter. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'au Portugal, il y a eu 60% d'abstention, je veux dire, par rapport au président portugais qui a été élu, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, et le vote électronique, chaque citoyen a aujourd'hui un portable, et il pourrait voter, je veux dire, à travers son portable, je veux dire, avec un code IP bien défini, et que ça soit très bien contrôlé. Et je pense que ça ferait voter les jeunes, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ne vont pas au bureau de vote.
Mais on sait aussi, et on risque aussi de rencontrer les mêmes discussions, voire les mêmes débats qu'aux États-Unis, où on avait brandi tout de suite le risque de fraude.
Oui, mais de toute façon, le risque de fraude, que vous fassiez le vote par correspondance ou le vote électronique, ça, il y aura toujours une réflexion sur la fraude.
Alors, Jean-Yves Roux, vous êtes membre du groupe d'études du développement économique de la montagne, un groupe éminemment important en ce moment, puisqu'on le sait, les remontées mécaniques ne sont absolument pas ouvertes, elles n'ouvriront pas. Le développement économique de la montagne doit changer de visage. C'est un petit peu l'avis du gouvernement, parce que Joël Giraud, qui est secrétaire d'État chargé de la ruralité, il a annoncé en début de semaine dans les Hautes-Alpes un fonds de résilience qui serait mis en place pour que les stations soient moins dépendantes du produit ski alpin. Pour lui, il faut faire naître un nouveau regard et peut-être une nouvelle façon de considérer l'économie de montagne. Mais ça aussi, c'est lent, cette reconstruction.
Oui, ça va être très lent, mais bon, c'est bien déjà d'avoir l'idée d'essayer d'évoluer. Moi, je dis tout le temps qu'il faut essayer d'évoluer à travers des produits, à savoir de faire des stations de 4 saisons. C'est-à-dire qu'on ne s'opère uniquement pas que l'hiver. Il faut qu'on essaie de profiter des 4 saisons.
Mais les stations, justement, dans les Alpes du Sud, elles n'ont pas un petit peu raté le coche. Ça fait des années qu'on parle du réchauffement climatique. Alors bien sûr, là, on n'est pas face au réchauffement climatique. On est face à la fermeture des remontées mécaniques. Mais dans cette impossibilité de pouvoir skier, on n'a pas un petit peu loupé le coche?
Et je pense que par rapport à tout ce qui arrive aujourd'hui de la pandémie, personne ne le prévoyait. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas anticipé ce qui devait arriver. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, vous le savez, j'ai fait un rapport là-dessus, on s'aperçoit qu'en dessous 1800 mètres, en 2050, il n'y aura pratiquement plus de neige. Et donc, il faut essayer de prévoir une autre activité, attractivité sur les stations de ski qui ne pourront plus bénéficier de neige. Donc c'est une réflexion à mettre en place à l'heure actuelle. Le gouvernement, Joël Giraud, veut le mettre en place. Écoutez, moi je suis tout à fait favorable, mais il faut essayer d'avancer vite. Toujours dire, oui, on n'a pas anticipé, c'est vrai, mais quand on se retrouve à une pandémie, on n'anticipe pas la pandémie. On ne sait pas si en 2022 ou 2023, s'il ne va pas avoir une autre pandémie autre que le Covid, la Covid-19. Je veux dire, on n'en sait rien. Je veux dire, donc, oui, c'est toujours le moment de créer quelque chose, mais il faut aller très vite parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus besoin par rapport à ce qui se passe. Et donc, on veut des solutions rapides et on veut des financements rapides. Donc, c'est au gouvernement, et j'espère que Joël Giraud, que j'apprécie beaucoup, qui pourra engager une réflexion au niveau avec des concrétisations et des actes qui soient quelque chose qui soit vraiment remarqué sur le territoire, mais aussi, je veux dire, financièrement, parce que c'est aussi un besoin financier que les stations attendent. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les vacances de février vont être sûrement aussi, ne pourront pas pouvoir ouvrir. Je veux dire, les stations aussi ne pourront pas ouvrir pendant les vacances de février. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, je veux dire, parce que ça va faire des dégâts économiques sur la montagne, mais impensables et inimaginables. Et cela n'a jamais été créé, même quand il y avait une période où, je veux dire, on n'avait pas de neige. Aujourd'hui, on ne peut pas skier. Bon, il y a de la neige, mais si on n'avait pas de neige, on aurait pu faire marcher les canons à neige. Je veux dire, là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vraiment l'économie de la montagne qui est touchée. Et je pense que le gouvernement doit s'approprier ce sujet et essayer d'avoir une réflexion rapide, car cela risque de poser d'autres problèmes dans les années à venir.
Alors, parlons d'un autre sujet. Quoique, on parlait des élections départementales en tout début d'interview, vous êtes vous-même conseiller départemental. Est-ce que vous serez candidat et comment vous voyez ces prochaines élections? On a déjà certaines déclarations qui se font jour, notamment Jean-Claude Castel qui est de droite mais qui a fait partie de la majorité de René Massette, qui le dit « moi je partirai en campagne en tant qu'homme de droite et puis on verra ensuite la suite hein, finalement, s'il y aura des alliances ou non ». Est-ce que vous serez candidat et comment vous voyez justement cette mandature et la suite?
Alors, aujourd'hui, ma réflexion sur ma candidature se pose, hein, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, j'attends de savoir un peu ce que va faire mon binôme. J'ai un petit souci de santé, donc j'attends de savoir un peu ce qu'elle va faire et puis je me prononcerai à cette occasion-là. Oui, j'ai bien envie de repartir, hein, mais je veux partir avec mon binôme que j'ai à l'heure actuelle parce que on a fait un travail remarquable sur ce canton de Seine et je voudrais poursuivre le travail que nous avons réalisé pendant ces 6 dernières années et son avis sera très important pour moi. Donc,
Vous attendez sa réponse. Et le bilan concernant ce mandat, par exemple, Sandrine Costra estime que l'on n'a pas fait assez, on n'a pas été assez ambitieux dans les budgets.
Alors, écoutez, l'ambition dans les budgets, oui, mais c'était une contrainte budgétaire qui était quand même assez différente par rapport avant 2015, ce que nous avons réalisé. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'a réalisé René Massette aujourd'hui et qui est en train d'inaugurer aujourd'hui, ça a été fait dans le programme qui avait été présenté par Gilbert Sauvat, c'est-à-dire une majorité de gauche, où il y avait des socialistes et des gens qui étaient divers gauche, et que René Massette a suivi. Donc je suis content que la droite, je veux dire, s'associe à une programmation que Gilbert Sauvard avait fait dès 2015 et que René Massette a poursuivi pour qu'on puisse réaliser. Donc, je veux dire, quand la droite refusait de voter notre budget, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par rapport à la programmation qui était prévue depuis 2015 par Gilbert Sauvard, donc, ils ont adhéré à cette réflexion. Donc, je suis très heureux que, entre guillemets, la droite se suive malgré les critiques qu'ils auraient pu faire pendant cette campagne électorale en 2015. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien de neuf. Ce que fait René Massette aujourd'hui, c'est uniquement le programme de Gilbert Sauvard. Donc, c'est un programme de gauche, parce que c'était une liste de gauche qui s'était présentée. Donc, je suis très content, moi, ce qui a été réalisé. Aujourd'hui, je pense que quand je me suis abstenu au niveau du département, je l'ai dit à René Massette et je l'ai dit en réunion, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'ambition parce que c'est la première année où on augmente le fonctionnement et on diminue l'investissement. Alors, je comprends, on est dans une période de crise, on augmente le RSA, mais je pense que par rapport à un plan de relance que le département aurait pu réaliser, on aurait pu investir plus, on a diminué notre investissement, je pense qu'on aurait pu investir plus pour essayer de relancer l'économie et surtout relancer les entreprises de notre département qui en auront fort besoin à travers la crise qu'on vient de passer en 2020. Uniquement cette critique-là. Ouais. Après, sur le fond de la programmation, vous reprenez tous les engagements qu'avait fait Gilbert Sauvard, que ça soit du financement du plan d'intérieur qui est en train d'être réalisé, c'est-à-dire de l'inauguration prochainement, et c'était un projet qui était lancé au niveau du collège Maria Borelli, que ça soit le collège de Seine a été réalisé, le collège de Castellane a été réalisé, en prévision il y avait le collège de Saint-André qui va être réalisé, qui est à l'étude pour essayer d'être réalisé. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le programme de Gilbert Sauvard que René Massette est en train de réaliser. Donc moi, je suis content que la droite s'associe à un programme de gauche. Alors, c'est vrai que les élections départementales vont être où on s'aperçoit que, comme j'avais dit dans le début du mandat de René Massette, cette majorité arc-en-ciel, écoutez, on s'aperçoit qu'ils vont tous retrouver, je veux dire, leur mouvement politique, c'est-à-dire que Jean-Claude Castel va rester à droite, tous ceux qui sont à droite vont rester à droite, et puis on verra. Mais je pense pas qu'il y aura une deuxième réflexion, parce que je sais pas si les citoyens et les électeurs accepteront de voter à nouveau sur une réflexion où on a la droite et la gauche qui gouvernent et qui, à l'heure actuelle, puissent poser un corps concrétisé. Je pense pas, je le vois pas comme ça. Je sens la remontée du terrain. Vous savez que je suis un élu de proximité. Je sens les citoyens qui disent, mais moi, ils me l'ont dit, quand tu t'es présenté au sénatorial, tu as été divers gauche, tu as toujours été de gauche, on sait que tu es de gauche. Hein.
Soutenu par la droite, quand même. Soutenu par la droite, comme Daniel Spagnou.
Soutenu par la droite. Soutenu par Daniel Spagnou. Pas par la droite en général. Si j'avais été soutenu par la droite, il n'aurait pas présenté le candidat.
Et justement, selon vous, par rapport au Conseil
départemental. J'ai été soutenu par uniquement, je veux dire, Daniel Spagnou, qui a fait de l'adhésion, c'est certain, et que je le remercie, mais je n'ai pas été soutenu par la droite, parce que la droite, on présentait un candidat.
Par rapport justement au conseil départemental, selon vous, Jean-Yves Roux, qui pourra être le leader naturel que vous souhaiteriez?
Aujourd'hui...
Peut-être vous d'ailleurs.
Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de contacts de citoyens qui veulent se présenter aux élections départementales et rejoindre notre groupe Territoire Démocratie Sociale Européen. J'en suis très content. Il y a même des élus qui ne sont pas dans notre groupe, qui veulent nous rejoindre, et j'en suis très content s'ils sont élus. Ils m'ont fait un appel du pied en me disant, oui, il faudrait qu'on essaye de revoir un peu au niveau du département, et des personnes importantes sur le département qui m'ont contacté. Donc, je suis fier de ce groupe que j'ai créé. Aujourd'hui, pour moi, c'est que le département puisse continuer à investir et essayer d'avoir les moyens possibles, c'est-à-dire avoir des subventions et avoir un partenariat encore bien plus proche avec la région.
Pourriez être ce leader ?
Écoutez, aujourd'hui, la question ne se pose pas si je vais être le leader de ce... Aujourd'hui, je suis le président du groupe Territoire. J'espère être réélu et être encore le président de ce groupe. Après, le leader, on verra une fois que les cartes seront jouées. Au deuxième tour, une fois que les électeurs seront, on verra cette période du troisième tour, comme on dit, pouvoir un peu avec qui on peut travailler et qui peut être, je veux dire, cette personne qui peut être le président du conseil départemental. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de plan sur la comète et j'essaye de voir un peu comment on peut essayer d'avoir des adhésions à ce groupe territoire pour qu'on essaye de faire une force qui soit vraiment un engagement et un investissement pour les Alpes-de-Haute-Provence.
Merci beaucoup Jean Héroux d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-30. Je rappelle que vous êtes sénateur d'hiver gauche des Alpes-de-Haute-Provence, conseil départemental, et que vous réfléchissez à une nouvelle candidature pour ces élections. Merci à vous.
Merci beaucoup.